on va déguster.
Pique, craque et croque tout. Avec du sel et du poivre, en friture ou en ragoût, les ogres trouvent les enfants bien à leur goût.
Ah, une histoire d'ogre aujourd'hui, j'avais très faim, j'avais très envie de vous raconter ce qui me venait à l'esprit quand on parlait de cuisine alsacienne. La première chose, pour moi, c'est un livre pour enfants de Tommy Ungerer. C'est quand même logique, puisque son auteur et illustrateur est né à Strasbourg. Le géant de Zeralda, paru en 1971, toujours édité à l'école des loisirs, c'est vraiment l'un de mes livres favoris à lire de 5 à 155 ans.
Vous avez grandi, les amis, avec Ungerer ou pas ?
Bien sûr.
Hein ?
Bah oui.
Ce fameux. Donc, si je comprends bien, c'est déjà l'heure de l'histoire du soir Estérel.
Oui, je vais essayer de ne pas vous endormir, mais attention, je vais dévoiler la fin. Le géant de Zeralda, c'est l'histoire d'une petite fille qui, grâce à ses talents culinaires, convertit un ogre cruel en un bon géant et finit même par l'épouser. À 6 ans, elle sait déjà faire friture et rôti, bouillie et farce, ragoût et grillade. Et non seulement elle cuisine, fait se détourner les ogres des enfants, les domestique grâce à son talent, leur ouvre le cœur en passant par l'estomac, tout en dévorant des livres de cuisine et en écrivant ses recettes. Un beau métier, n'est-ce pas ?
Oui, moi ça me plaît.
Tommy Ungerer nous montre ainsi qu'il n'y a pas que le rire qui soit le propre de l'homme, il y a la cuisine aussi. Du Lévi-Strauss à partir de 5 ans, ça change quand même des contes où la malheureuse princesse doit se méfier de la moindre pomme. Zeralda, elle n'a vraiment rien de tarte, puisque c'est elle qui les fait et qui change le monde grâce à elle.
Alors à quoi ils ressemblent ces menus signés Zeralda, la cuisinière d'un ogre ? Ça me met en appétit même.
Elle est vraiment marquée par la cuisine alsacienne, Zeralda. Elle sert un potage de cresson à la crème, des truites fumées au capre, des escargots au beurre et à l'ail, des poulets rôtis et un cochon de lait. Tout ça pour le premier pique-nique qu'elle improvise sur un coin de chemin pour l'ogre. On comprend quand même qu'après ça, il s'empresse d'aller l'embaucher. Et même quand elle prépare un banquet pour convertir tous les ogres aux délices de la vraie nourriture, accrochez-vous. Choucroute garnie, pâté en croûte, peut-être un maréchal des comptes.
Bah, c'est ce que je disais. Ah, ça y est, vous avez révélé l'énigme.
Non, ah non,
c'est
bon. Un pompano Sarah Bernard.
Oui.
Un pompano, c'est un poisson quand même. Moi, je l'ai appris dans ce livre.
Vous connaissiez ou pas ?
Non, pas du tout.
Pompano. Ah ben, on est rassurés. Même les Alsaciens ne connaissent pas.
On pensait que c'était un nom complètement inventé, mais non, c'est un vrai poisson qui existe.
D'accord.
Mais pas la recette Sarah Bernard. Une sauce raspoutine, une dinde jeune fille, et en bouquet final, un croque-fillette sur délices des ogres.
Oula, croque-fillette.
Ça, je m'en rappelle maintenant.
C'est vrai ?
Ouais.
Ça vous rappelle des cauchemars ?
Ça me rappelle plutôt les histoires que me disaient mes parents,
c'est
vraiment.
Ça.
Mais alors surtout que c'est le dessert, en effet, Marion. Mm-hmm. Le croque-fillette sur des listes des ogres. Nommer ainsi les plats, c'est jouer sur les mots aussi bien sur les mets. Faire de la cuisine une action magique. Éloigner l'ogre en nous satisfaisant non seulement l'estomac, mais aussi la tête.
Tommy Ungerer et la cuisine, c'est quand même une grande, grande histoire d'amour.
C'est difficile d'y échapper dans à peu près toutes ses œuvres. Il y a toujours des clins d'œil à la nourriture. Dans Trémolo, le héros musicien transforme les notes en délicieuses pépites noires à croquer. Et dans La grosse bête de Monsieur Racine, ce sont des poires délicieuses qui attirent la bête du titre, qui raffole aussi des macarons. C'est d'ailleurs une amie alsacienne qui m'a fait découvrir Tommy Ungerer il y a 15 ans, en me chargeant de lire cette histoire à son fils. Les livres de Tommy Ungerer, en fait, ça se transmet de bouche à oreille, exactement comme les recettes de cuisine. Il a même illustré un livre de cuisine alsacienne en 94, dont je vous ai amené quelques planches parce que le livre est épuisé, totalement introuvable. C'est les plaisirs de la chair et de la bonne chair qui y sont mêlés d'ailleurs. C'est pas toujours vraiment pour les enfants. On peut d'ailleurs en voir des planches au musée Tommy Ungerer de Strasbourg,
hein, ah oui,
qui propose toute une salle dédiée à ce sujet. Il y a même une expo itinérante qui a fait cuisiner les étudiants du Crous autour des illustrations de Tommy Ungerer, mais aussi des détenus d'une maison d'arrêt. Le message de Zeralda, ça reprend vie à chaque fois.
C'est pour ça que vous nous avez apporté des petits gâteaux ?
Oui, alors, c'était une histoire
vous
de vous amadouer.
Oui, ben
oui, quand même. Parce qu'il y a une tradition alsacienne toujours vivace, qui est celle des brédeleux. Ce sont les petits gâteaux de l'Avent que l'on prépare en grande fournée et que l'on offre à ses amis et voisins. Thierry Schwartz nous a emmenés d'ailleurs. Si Zeralda était là, je crois qu'elle aurait forcément pris pour Bible les livres de Suzanne Roth, une auteure culinaire alsacienne qui a fait un important travail de mémoire sur les recettes traditionnelles, dans le livre de cuisine des Alsaciennes, mais aussi dans les petits gâteaux d'Alsace, qui est un peu la Bible à sortir en cette saison.
Ah, vous l'avez même, faites voir.
Oui.
Ah oui, oulala, il a bien vieilli, ça sent le...
Voilà, il y a quelques illustrations, c'est un livre tout simple, mais dedans, il y a tous les basiques des brédeleux à connaître sur le bout des doigts. D'ailleurs, dedans, j'ai pioché la recette des boules de Linz, C'est des petits sablés ronds au cœur de confiture. Déjà parce que les enfants, justement, ils peuvent mettre la main à la pâte, littéralement en enfonçant leur pouce dedans pour faire le petit trou dans lequel on va mettre la confiture de framboise.
Ça ressemble à un œil.
Eh ben oui, moi j'ai toujours vu des yeux de géant depuis que je suis petite, tout simplement. C'est un peu un test de Rorschach, hein, version pâtissière. On y retrouve surtout toutes les saveurs de la Linzer Torte en une bouchée. Pour les faire à la maison, c'est super simple. même quantité, 125 grammes de farine, de sucre, de poudre de noisette ou d'amande.
Donc 125 grammes farine, sucre, beurre, poudre d'amande, tout ça à 125 grammes.
Voilà, un petit peu de cacao amer en poudre, une cuillère à soupe, un œuf, les épices de votre choix, moi j'ai mis cannelle et girofle, une petite pincée de bicarbonate.
Oui.
On met au froid surtout après avoir fait la pâte, hein, 2 à 3 heures. On façonne ça en petite boule comme de la pâte à modeler. Et au four, on fait un petit trou. On met une cuillère de confiture de framboise.
Oui.
Bon, vous pouvez mettre la confiture que vous voulez quand même, hein, j'avoue.
Oui, moi je vais mettre figue.
Voilà, très bien, on va inventer ça. Puis un peu d'anis, on fera des canis treillis comme
bon,
ça.
Bon, on va avoir cette un peu plus éternée.
Et au four, 20 minutes à 160 degrés.
Et attendez, vous avez goûté? Franchement, je m'en suis un peu gavé avant l'émission. C'est délicieux. Il y a même une version interdite qu'elle n'a pas voulu présenter parce qu'elle n'a pas le temps, etc.
Ah oui, c'est parfum cigogne.
Non, non, juste l'autre recette incroyable.
Alors, l'autre recette qui n'est pas... qui était censé rester off, la même chose avec au milieu du chocolat fondu mélangé avec de la pâte de sésame, du tahini. J'ai fait une petite version chocolat tahini qui est
avec des saveurs pralinées, mais vraiment, vraiment, c'était délicieux. Vous aimez ou pas, Thierry? Ça va?
C'est super bon.
Ouf.
Pas meilleur que vos brés de lait quand même que vous nous avez apporté.
C'est différent.